Vous écoutez On lit pour vous.
8 conseils pour 7 jours pleins d'énergie. Un texte de Catherine Enfield, paru le 1er septembre 2024 dans la presse. Comment maintenir un bon niveau d'énergie du lundi au dimanche? Quelques conseils signés Julie Carignan, psychologue organisationnelle, conseillère en ressources humaines agréée et associée chez Humance, Alexandre Nadeau, président de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec, et Ahmed Jérôme Romain, kinésiologue et professeur adjoint à l'Université de Montréal. Sommeil régulier. Qui dit énergie dit sommeil. La clé, selon l'ergothérapeute Alexandre Nadeau, c'est d'avoir un sommeil régulier. Si on se couche à 22 heures en semaine et à minuit la fin de semaine, c'est sensiblement dans les mêmes paramètres, indique-t-il. De courtes siestes de 10 ou 15 minutes peuvent aussi être très bénéfiques. Parmi les facteurs qui influencent le niveau d'énergie, on compte aussi la nutrition, l'exposition à la lumière et l'exercice. Exercice. Bonne ou mauvaise idée, concentrer son activité physique le week-end? Kinésiologue et professeur adjoint à l'Université de Montréal, Ahmed Jérôme Romain affirme que les Weekend Warriors retirent des bénéfices similaires par rapport à ceux qui répartissent leurs 150 minutes d'activité physique tout au long de la semaine. Et même 10 minutes d'activité physique, c'est déjà bien, rappelle M. Romain, qui souligne que bouger avec des gens, c'est encore mieux pour la santé psychologique. Planification. L'idée n'est pas forcément de tout écrire, mais il faut se fixer des objectifs, estime l'ergothérapeute Alexandre Nadeau. Sinon, les activités plaisantes prennent souvent le bord, prévient-il. On peut par exemple se dire que, ce week-end, on prévoit 3 choses. Faire un ménage de base, socialiser et faire une activité à l'extérieur, en famille. Des rituels peuvent aussi être instaurés les soirs de semaine, comme les mardis cinéma à petit prix. Par ailleurs, planifier les tâches permet souvent de gagner du temps. Temps d'écran. Les écrans prennent beaucoup de place dans le quotidien. L'objectif n'est pas de les bannir, mais de s'imposer un cadre. Des outils permettent d'ailleurs d'établir des limites, indique Alexandre Nadeau. Après une heure passée sur les réseaux sociaux, on ne sera pas plus satisfait d'en faire 2 heures, parce qu'à moyen et long terme, ça prend la place d'autres activités, dit-il. État d'esprit. Fiston a encore un entraînement de soccer et vous tenez à être présent? Essayez de savourer le moment, en faisant par exemple des exercices de respiration ou en jasant avec les autres parents. On a en partie le contrôle sur son état d'esprit, souligne la psychologue organisationnelle et CRHA Julie Carignan. Vous préférez consacrer 30 minutes de cet entraînement à la lecture ou à un jogging? Allez-y donc! Il faut devenir magicien et créer du temps avec le temps, dit-elle. Des vraies pauses. Certains travailleurs ne prennent pas de pause du travail en espérant pouvoir ainsi finir plus tôt. Julie Carignan leur dit ceci. C'est rarement vrai que ça arrive. Si vous travaillez à l'ordinateur, il y a beaucoup mieux à faire pendant la pause que de se mettre sur son cellulaire. Sortez de votre environnement. Mangez en travaillant, c'est mauvais pour la santé. Point. Réflexion. Qu'est-ce qui énergise et qu'est-ce qui draine? La réponse se trouve à l'intérieur de soi. Au travail, il faudrait au minimum respecter la règle de 60-40, estime Julie Carignan. Quand on travaille pour une organisation en adéquation avec ses valeurs, quand on accomplit des tâches alignées avec ses talents naturels, on peut finir la semaine plus reposé, même en travaillant plus d'heures, assure-t-elle. Conflits. Les conflits relationnels font partie des choses qui drainent. Mieux vaut donc apprendre à les gérer. C'est votre patron qui vous draine? Vous pouvez demander à le rencontrer pour prendre le temps de vous connaître et être capable d'exprimer vos besoins, conseille Julie Carignan. Les gens qui se sentent harcelés au travail ont avantage à lancer un appel à l'aide aux ressources humaines, dit-elle. C'était 8 conseils pour 7 jours pleins d'énergie, un texte de Catherine Enfield, paru le 1er septembre 2024 dans La Presse.
El Niño, une chronique d'Aloïs Gallet, paru le 23 avril 2024 dans le journal La Source en Colombie-Britannique. S'il y a un phénomène climatique qui gagnerait à être connu, c'est bien El Niño. Cela tombe bien, puisque nous venons de vivre un épisode El Niño de tous les records. Derrière ce nom d'enfant de cœur pourrait se cacher une terrible prophétie. Il se manifeste périodiquement, tous les 2 à 7 ans, dans l'océan Pacifique Sud. Les températures de surface augmentent en même temps le régime des vents. Les alizés changent de direction et, en caressant la surface des eaux, El Niño déclenche un gigantesque transfert d'énergie de l'océan vers l'atmosphère. Ce relargage thermique est énorme. Lorsque les scientifiques ont calculé le potentiel énergétique du phénomène, ils ont découvert que l'enfant terrible crachait en quelques mois l'équivalent de chaleur de millions de bombes atomiques. Ceux qui ont appris la physique du climat à l'école doivent s'en souvenir. Les océans rendent de nombreux services écologiques à notre humanité hésitante. Pendant que nous tergiversons toujours sur la responsabilité des uns ou des autres à agir pour le climat, nos systèmes industriels et économiques relarguent inlassablement des milliards de tonnes de gaz à effet de serre. Le surplus de chaleur piégé dans la troposphère est absorbé en grande partie par les océans au taux de 93 %. Mais ce service rendu n'est ni définitif ni gratuit. Ce phénomène naturel et ancien n'a pas besoin du changement climatique d'origine humaine pour faire des dégâts. Les historiens ont retrouvé sa trace dans l'effondrement des civilisations égyptiennes et mayas. Lorsque El Niño se manifeste, il empêche l'eau froide de remonter des profondeurs, ce qui prive le plancton des nutriments nécessaires à sa survie et à son développement. En plus de malmener le premier maillon de la chaîne alimentaire par des eaux trop chaudes, on sait aussi qu'à mesure que l'océan absorbe du dioxyde de carbone, il s'acidifie. Le plancton peine à se nourrir et il peine à se construire puisque ses structures faites de calcium n'aiment pas l'acidité. Dans les années El Niño, des ouragans se forment, des sécheresses s'installent, des torrents de pluie se déversent, des feux de forêt survivent à l'hiver. El Niño exacerbe toutes ces calamités, puis il marque le pas. Nous venons de franchir en 2023 le seuil des accords de Paris fixé à 1,5 degré de réchauffement planétaire et nous ne reviendrons pas en arrière. Depuis mars 2023, tous les records de chaleur planétaire ont été battus, mois après mois. El Niño est reconnu comme étant le principal modulateur de la température de surface mondiale d'une année sur l'autre. Les études estiment qu'il est responsable de 0,2 degré de réchauffement sur une année. Un chercheur a déclaré au sujet du phénomène El Niño que cette bombe combinée au réchauffement climatique anthropique nous plonge en territoire inconnu. Les écosystèmes marins, comme terrestres, sont violemment secoués et il ne saurait guère tarder avant que les économies mondiales et interconnectées prennent l'eau. Poissons, chocolat, concrètement, il faut s'attendre à ce que les prix s'envolent et que le grain vienne à manquer. Laurent Testo revient dans El Niño, histoire et géopolitique d'une bombe climatique, sur 3 épisodes majeurs qui, à la fin du 19e siècle, ont provoqué des famines, notamment en Inde et en Chine. On estime que ces famines ont causé la mort de 30 à 60 millions de personnes. Il s'agit là de pertes comparables, en ordre de taille, au bilan des guerres mondiales. D'aucuns prétendent qu'El Niño soit un tueur isolé. C'est la mauvaise combinaison d'un phénomène océanique prévisible avec des politiques de lutte contre les changements climatiques qui ne portent aucun résultat. Des stratégies de protection des océans qui, à date, n'améliorent rien. Des modèles économiques obsolètes mélangés à une culture de l'instant présent, de la compétition, de l'irresponsabilité généralisée, là où il aurait fallu de la coopération, de l'anticipation, de la solidarité. Ce cocktail nous précipite au-devant de grands dangers. El Niño est suffisamment connu et documenté pour que les historiens, dont celui précité, lui attribuent une probable responsabilité dans 21% des nouveaux conflits civils. Lorsque les moissons seront mauvaises, les peuples viendront à manquer de tout, puis la révolte viendra. En attendant, les plus sensibles et les mieux informés peuvent choisir de faire des réserves, de cultiver leur jardin ou de tenter par tous les moyens de faire naître un débat. En cet instant, l'avenir n'est pas prescrit, il s'écrit. C'était El Niño, une chronique d'Aloïs Gallet, paru le 23 avril 2024 dans le journal La Source, en Colombie-Britannique.
La mémoire de nos luttes. Du passé, ne faisons pas table rase. Une chronique de Denis Daniel Boulay, paru le 22 avril 2024 dans le magazine Fugue. En réfléchissant aux 40 ans de Fugue, dont je crois qu'on découvrira son rôle dans toute son importance, peut-être dans 2 ou 3 décennies, je me suis demandé si nous n'avions pas rangé nos luttes dans des boîtes à souvenirs, prenant lentement la poussière de l'oubli. On aime bien commémorer, mais commémorer, c'est tuer une seconde fois. On fiche dans l'histoire, on épingle les luttes comme des papillons dans des vitrines. On ne perçoit plus dans l'histoire avant tout le mouvement qui la traverse et qui nous traverse toujours. À l'Espace Go, Kevin Lambert a adapté le dernier roman de Marie-Claire Blais, Un cœur habité de 1000 voix. La pièce se termine par le rappel de nos luttes avec la question centrale qui reprendra le flambeau. Kevin Lambert parle d'un testament politique de Marie-Claire Blais, et c'est vrai. Des premières manifestations dans les années 70, des batailles pour lutter contre les lois discriminatoires, des colères contre l'indifférence des autorités politiques et sanitaires face à l'arrivée du sida, des alliances parfois houleuses ou méfiantes avec les mouvements féministes et lesbiens. En entrevue avec Fugue, le metteur en scène et comédien Alexandre Fecteau venait de découvrir l'ampleur de la tragédie du sida qui l'avait amené à mettre en scène « N'essuie jamais de larmes sans gants », l'adaptation du roman de Jonas Gardel. Il voulait que cette tragédie ne s'efface pas de nos mémoires collectives. Notre histoire ne doit pas disparaître et elle peut nous servir de guide dans les temps incertains que nous traversons. Aujourd'hui, tout le monde s'entend pour dire qu'il y a un recul pour nos droits, pour notre sécurité. Le vent vient du sud, des États-Unis. Mais d'autres vents soufflent sur le reste de la planète, apportant des relents de conservatisme, de religiosité. On parle de l'Ouganda, de la Russie, et la liste pourrait s'allonger. Même les plus tièdes, de ceux et celles qui pensent que nous vivons ici dans la plus meilleure société pour les 2SLGBTQ+, commencent à s'inquiéter. Même la ministre responsable du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, Martine Biron, s'est montrée préoccupée par le ressac qui se manifeste ailleurs. Cela dit, avec la création du Comité des sages, le gouvernement auquel elle appartient apporte sa pierre à ce recul. Pas très grave, pourrait-on se dire. Le comité n'a pas encore fait de recommandations. Mais compte tenu du contexte, on est en droit de se demander si cela sonne un signal d'alarme. Rappelons simplement que c'est la première fois depuis 3 décennies qu'un gouvernement décide de s'occuper de « nous », sans que l'on soit invité à la table de la réflexion. Devant cette situation, les organismes 2SLGBTQ+ adoptent différentes stratégies. Certains privilégient les rencontres et les discussions avec le gouvernement, espérant sensibiliser les personnes en position de décision et faire fléchir des politiques qui n'iraient pas dans l'intérêt de nos communautés ou représenteraient un recul réel des acquis. D'autres préfèrent une démarche plus frontale, avec des manifestations, mais surtout dans un esprit de résistance en faisant appel à d'autres organismes de la société civile, comme des associations étudiantes. Sans nécessairement exprimer qu'il y a d'importantes dissensions au sein de nos communautés, la création de la coalition « Nous ne serons pas sages » fait ressortir l'impatience devant les limites du lobbyisme poli et institutionnalisé qui s'est installé dans les relations avec les gouvernements. Il faut rappeler que la création du Comité des sages a été décidée sans l'avis de la ministre du Bureau de lutte contre l'homophobie et de la transphobie, sans consultation du Conseil québécois LGBTQ. Certains en sont venus à se demander si le premier ministre et le ministre de l'Éducation comprennent les enjeux et nos réalités et s'ils ne pensent qu'à calmer les critiques contre la visibilité plus grande des questions de non-binarité et transgenre. Bien sûr, ils nous aiment, mais à condition que nous soyons sages, gentils, propres sur nous et tellement drôles. Je joue le cliché, certes, mais il est navrant de voir des représentants et représentantes d'organismes jouer cette carte-là. Bien sûr, les différentes personnes qui ont des communications régulières et soutenues avec le bureau de lutte n'apprécient guère la création de ce comité des sages, même si elles sont consultées par le dit comité, faisant le pari qu'elles pourront influer sur les conclusions qu'il en tirera début 2025. D'autres aimeraient qu'elles demandent au gouvernement de se tenir debout face aux discours et aux manifestations de droite qui s'installent et rappeler les valeurs défendues par le Québec. On pourrait croire, par ce long détour autour du Comité des sages, que je m'éloigne du sujet premier, la mémoire de nos luttes, mais c'est bien à partir de cette mémoire que nous pouvons analyser et commenter ce qui se passe aujourd'hui. Si nous oublions d'où nous venons, ce que nous avons traversé, nous ne pouvons alors comprendre pourquoi le Comité des sages n'est pas qu'un simple accident anodin. Il est emblématique de ce que nous avons toujours combattu depuis si longtemps. Entendre que l'on prenne la parole à notre place pour qu'on ait enfin droit de citer. Cette place durement conquise ne doit pas être aujourd'hui soumise au bon vouloir des décideurs qui nous la laisseraient ou nous la reprendraient selon leurs intérêts du moment avec le risque de nous effacer totalement. Cette mémoire qui devrait nous habiter est aussi fragile. Contrairement à l'identité culturelle, linguistique, voire religieuse, notre histoire ne se transmet pas par la famille où les membres se chargent de la transmission d'une histoire individuelle et collective. Pour les jeunes 2SLGBTQ+, cette histoire est à découvrir, voire à apprendre. Elle ne fait pas partie des bagages quand on commence sa vie de gay, de lesbienne, de trans, de non-binaire, etc. Les relations intergénérationnelles entre 2SLGBTQ+, ne sont pas si valorisées, et pourtant, elles serviraient de point de jonction entre la mémoire de nos luttes et ce qu'on vit aujourd'hui. Les archives gays du Québec ne sont pas un musée de notre histoire, bien au contraire. Elles sont le trait d'union indispensable entre les générations, entre le passé et l'avenir. Elles sont une source inépuisable pour savoir d'où nous venons et on peut rêver pour savoir où nous allons. L'oubli est un des plus grands dangers. Ne devenons pas amnésiques des luttes antérieures, elles sont le terreau sur lequel nous pouvons encore grandir. C'était « La mémoire de nos luttes, du passé ne faisons pas table rase », une chronique de Denis-Daniel Boulay, parue le 22 avril 2024 dans le magazine Fugue.
La ville parfaite n'existe pas. Un texte de Nathalie Collard, paru le 10 septembre 2024 dans La Presse. J'étais à Copenhague depuis 3 jours quand ça m'a frappé. Je me sentais bizarre et ce n'était pas le décalage horaire. J'ai finalement trouvé. Je n'étais pas sur mes gardes. Il n'y avait aucune agressivité dans l'air et j'en étais déstabilisée. Il aura fallu l'éloignement pour réaliser
quel point c'est devenu tendu dans les rues de Montréal. À Copenhague, les cyclistes roulent dans leur voie et arrêtent au feu rouge. Ils signalent leur présence par un petit « dring-dring » de clochette, très agréable, plutôt qu'en vous insultant, le majeur en l'air. Ils ne vous donnent pas l'impression, comme certains Montréalais, de s'entraîner pour le prochain Tour de France. Ils se déplacent, tout simplement. Les automobilistes sont tout aussi civilisés et prudents. En une semaine, je n'en ai pas observé un seul qui tentait de forcer un feu rouge. Même les piétons attendent sagement le feu vert, ce qui, je l'avoue, a provoqué chez moi une remise en question de mes propres comportements délinquants. Bref, durant 7 jours, je n'ai pas été craintive une seule fois en traversant la rue et en marchant dans la ville. La propreté de Copenhague contribue, elle aussi, à ce sentiment de sécurité. Les rues, les métros, les parcs et les places publiques, tout est incroyablement propre. Quant à l'itinérance, elle est presque invisible. J'ai marché 100 kilomètres en une semaine et j'ai croisé tout au plus 6 itinérants. 6! Aucun campement, aucune personne couchée sur un banc ou sur le sol d'une station de métro. Aucune personne désemparée qui hurle son désespoir dans l'espace public. « Où sont vos itinérants? » ai-je demandé, incrédule. Réponse de mon interlocuteur. « On en prend soin. »« OK, je veux bien, mais encore. » Les Danois favorisent l'approche « un toit d'abord »,« housing first », que plusieurs organismes montréalais ont également adopté. Il faut croire que les services de réinsertion sociale donnent de meilleurs résultats que chez nous. Par contre, le Danemark a adopté une loi anti-mendicité tellement sévère qu'elle a été décriée par des organismes communautaires et qui la jugent inhumaine. Il faut dire que les mailles du filet social danois sont plus serrées qu'au Québec. On paye même les jeunes pour étudier au-delà de l'école secondaire. Et si la crise du logement sévit là-bas comme chez nous, il y a un réseau de logements abordables digne de ce nom. Environ 20 % des Danois habitent un logement social ou abordable. Les salaires sont élevés, les écarts entre les classes sociales moins prononcées que chez nous, et le produit intérieur brut est l'un des plus élevés au monde. En contrepartie, le taux d'imposition tourne autour de 50 % et les Danois paient une taxe de vente de 25 % sur tout, même les produits essentiels. Les Danois affirment comprendre à quoi servent leurs impôts, et le pays est parmi les sociétés les plus heureuses au monde. Il faut le reconnaître, les Danois ont un sens de la communauté et du vivre ensemble plus développé que le nôtre. La collectivité est primordiale au Danemark, alors que nous sommes plus nord-américains et donc plus individualistes. Si la ville de Copenhague est si agréable, c'est aussi parce que tout le monde met la main à la pâte. Les gens sont fiers de leur ville et s'en sentent responsables. Je n'ai pas vu beaucoup de vélos cadenassés et il n'y a pas de changeurs dans le métro. On s'attend à ce que vous passiez votre carte ou votre billet sur le lecteur, tel qu'exigé. En d'autres mots, la société danoise suppose que vous êtes un adulte responsable et que vous saurez vous comporter comme tel. Ça aussi, c'est inspirant. Cela dit, je ne voudrais pas donner l'impression que le Danemark est parfait. Loin de là. Deux choses m'ont particulièrement ébranlé. D'abord, leur attitude face à l'immigration, leur loi étant jugée comme parmi les plus restrictives au monde. Depuis 2018, le Danemark a mis de l'avant une politique anti-ghetto. Le terme controversé a depuis été remplacé par « société parallèle », qui lui donne le droit d'intervenir dans des quartiers pour casser les regroupements d'une même communauté d'immigrants, allant même jusqu'à démolir des édifices et déplacer des gens. Objectif : plus aucun ghetto d'ici 2030. Décrié comme mesure discriminatoire, voire islamophobe, par des citoyens, cette approche est l'objet d'une plainte à la Cour de justice de l'Union européenne, qui doit rendre son jugement en 2025. Facile de vivre ensemble quand il n'y a aucun enjeu de cohésion et de cohabitation, quand tout le monde, ou presque, pense pareil. Mais si cette homogénéité s'appuie sur des politiques qui frisent la xénophobie, il faut se poser des questions. Autre paradoxe de Copenhague, la construction d'une île artificielle. Lynetteholm, au large de Refshaleøen, qui créera un nouveau quartier de 35 000 habitants d'ici 2070. Cette île d'une superficie de 3 km carrés qu'on pourra rejoindre en auto par un tunnel ou par une nouvelle ligne de métro est loin de faire l'unanimité. Bien qu'on la présente comme un moyen de contrer l'élévation du niveau de la mer, les groupes écologistes dénoncent les tonnes de roches charriées de la Norvège pour construire les assises de l'île qui perturbera l'écosystème de la mer Baltique. Dans une ville qui souhaite se distinguer pour sa lutte contre les changements climatiques, c'est tout de même étonnant. Comme quoi, toutes les sociétés ont leur paradoxe. C'était « La ville parfaite n'existe pas », un texte de Nathalie Collard, paru le 10 septembre 2024 dans La Presse.